On accueille Sylvie Novakovic. C'est oui. bien ça, je prononce bien, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit pénal. Bienvenue à vous.
Merci.
On accueille également Philippe Zdankevic.
Bonsoir.
Je prononce bien également.
Oui, tout à fait.
Parfait, c'est un sans faute. Enquête bénévole à la RPD, assistance et recherche de personnes disparues. Et vous êtes également ancien gendarme.
Et oui.
Bienvenue à vous.
Merci.
Je ne salue plus Dominique Rizet et Laurent Valdiguier. Voilà, mais bon, on vous salue quand même, bonsoir.
On vit sur le plateau de BFM, on a vu quand là, tous les deux.
Mais juste avant, je voulais qu'on retourne dans ce hameau du Haut-Vernay, retrouver Anne-Sophie Varmont. Vous avez passé la journée sur place pour cette mise en situation, Anne-Sophie. Quel bilan peut-on en tirer ?
C'est encore un petit peu tôt pour savoir vraiment ce que les enquêteurs vont retirer de cette journée. Par contre, ce que l'on sait sur le déroulement de cette mise en situation, c'est notamment concernant les protagonistes présents. On sait qu'il y avait des membres de la famille, par exemple les grands-parents du petit garçon, puisque c'est eux qui étaient en fait chargés de le garder le jour de sa disparition. Il y avait également ses parents qui étaient là. Et puis, il y avait des témoins, notamment deux témoins essentiels. Un témoin qui a vu le petit garçon vers 16h30 descendre vers le lavoir de la commune, et puis un autre qui l'a vu un quart d'heure plus tard remonter cette fois vers la maison des grands-parents. Alors ces protagonistes, ils ont raconté cette journée de la disparition d'Émile, ils ont détaillé leurs faits et gestes, et tout cela sous le regard des enquêteurs qui ont filmé cette mise en situation avec aussi les magistrats instructeurs qui étaient présents. Le but de ces films et de ces vidéos, c'est maintenant de les analyser, de les confronter aux éléments matériels déjà récupérés par les enquêteurs. Et à partir de ces analyses, on va savoir si cette mise en situation, elle a permis de faire avancer l'enquête.
Merci beaucoup Anne-Sophie avec Adrien Fache. Dominique Rizet, pour les personnes qui nous suivent et qui se demandent ce que c'est qu'une mise en situation, on parle là de 17 personnes, les voisins, la famille, toutes les personnes qui étaient présentes dans ce hameau au moment de la disparition du petit Émile étaient convoquées par la justice pour une reconstitution finalement.
Alors, c'est un transport de justice, c'est un transport sur les lieux, ça s'appelle comme ça. Alors, soit c'est une reconstitution, c'est plutôt une reconstitution quand on a un auteur ou des auteurs présumés, des suspects, auxquels on demande de refaire des gestes, qui parfois refusent de les faire, donc on demande à un policier ou à un gendarme de faire les gestes à leur place. Et puis, quand on n'a ni auteur... au singulier ou au pluriel, et pas non plus de disparu, puisque le petit Émile est toujours absent, eh bien on fait une mise ou une remise en situation. Alors, on a cherché avec le service police-justice de BFM et avec Laurent, et on a trouvé une seule affaire de mise en situation, c'est Chevaline. Donc Chevaline, ça se passe le 5 septembre 2012, une famille qui est abattue et un cycliste, Sylvain Mollier, dans la combe de Chevaline. Et la mise en situation, elle a été réalisée 9 ans plus tard, c'est-à-dire 2012 en 2021.
Et avec quel bilan ?
Et ça n'a pour l'instant rien apporté. On est en 2024 et l'affaire de Chevaline n'est toujours pas résolue. Donc voilà, mise en situation, on prend les 17 personnes, on leur demande de se remettre à l'endroit où elles étaient, de revivre, de refaire les gestes qu'elles avaient faits ce jour-là. Et puis on voit si tout ça est cohérent avec... les premières constatations, les premiers PV qui ont été faits au moment de la disparition d'Émile.
En écoutant Dominique, je me dis qu'en réalité, c'est l'inverse d'une reconstitution. Parce qu'une reconstitution, c'est à la fin d'une enquête. Quand on a un auteur, quand on a des faits, quand on a une scène de crime, et quand on, éventuellement, on a des contradictions à lever en fin d'enquête. Donc on reprend l'auteur, on reprend les gens, on les amène sur les lieux du crime et on leur fait rejouer la scène et on lève, à la fin d'une enquête judiciaire, on lève les dernières contradictions. Là, c'est l'inverse. On n'a pas d'auteur, on n'a pas de scène et au fond, on est en train de faire la levée de doute, au contraire, sur les horaires. On cherche à comprendre quels sont les ingrédients de départ. Autrement dit, on cherche à comprendre dans quel petit périmètre Émile a disparu. Et dans quelle période de temps il a disparu ? C'est l'inverse d'une reconstitution. C'est au contraire poser... Alors c'est vrai qu'on est 9 mois après le début, après la disparition, on est 9 mois après l'enquête. C'est pour ça que c'est vrai que cette scène d'aujourd'hui, elle n'augure rien de bon sur l'état de l'enquête, puisqu'au fond, il s'agit de poser, un peu comme si on était au lendemain de la disparition d'Émile, où ça s'est passé et dans quel espace-temps.
Oui. Sylvie Novakovic, c'est vrai que c'est... une façon de dire quand finalement l'enquête est un peu au point mort et on repart de zéro, on essaie de recomprendre précisément ce qui s'est passé, c'est ça ?
Oui, ou pas, parce que finalement, nous n'avons pas accès sur ce plateau au dossier pénal. Donc, c'est le secret de l'instruction. Donc, qui nous dit que les deux juges d'instruction qui ont été désignés n'ont pas des éléments de l'enquête qui pourraient effectivement laisser penser qu'ils veulent mettre en présence les personnes avec leurs contradictions pour effectivement faire sortir la substance moelle du dossier et savoir la vérité. Parce que c'est plutôt ça, si vous voulez, c'est peut-être cet élément qui fait qu'ils ont voulu aller faire cette mise en situation 9 mois plus tard. Parce que 9 mois plus tard, ça sert à rien. Sauf s'il y a des éléments qu'on ne connaît pas ici sur ce plateau et qui, bien sûr, seront découverts
donc,
plus tard.
Donc, peut-être que à travers les perquisitions menées, ils ont des éléments qui ne leur semblent pas très cohérents et qui auraient déclenché cette volonté de mise en situation.
C'est très possible, parce qu'on sait qu'il y a énormément de témoins, de gens, si vous voulez, des écoutes téléphoniques, énormément de choses qui ont fait qu'ils ont eu des éléments. Et peut-être qu'ils ont voulu aujourd'hui les mettre face à face et voir ce qui se passe et voir si effectivement il y a des gens qui vont se contredire entre eux et des témoins entre eux qui vont être confrontés. C'est certainement ça, mais on n'est pas là sur le dossier, donc on ne peut pas savoir.
Avec un flou qu'ils essayent d'ailleurs de d'élucider, la question du laps de temps pendant lequel le petit Émile disparaît. Certains témoins, parce qu'il y a deux témoins qui auraient vu le petit Émile avant qu'il ne disparaisse, mais dans les horaires, ça reste flou, c'est ça, expliquez-nous.
Oui, on a vu la maison des grands-parents. C'est un hameau minuscule, c'est imaginer une petite route en forme de L. Il y a la maison des grands-parents et il y a un lavoir. Et sur cet espace de 50 mètres, c'est un cul-de-sac, sur cet espace de 50 mètres, il y a deux témoins qui, sur le coup, ne se rendent pas compte de l'importance de ce qu'ils voient, par définition. Qui voient l'un, Émile, descendre vers le lavoir et l'autre, le même Émile, remonter vers, disons, la forêt ou la maison des grands-parents.
Donc déjà, des témoignages contradictoires.
C'est contradictoire, oui et non. On a tout le temps cru que c'était contradictoire. On les a présentés comme contradictoires, mais ça dépend dans quel espace-temps ça se situe. Parce que en réalité, s'il s'est passé un quart d'heure, Émile, il a pu commencer par descendre, ça descend. Et puis il est arrivé la veille, il ne connaît pas forcément bien les lieux, Émile. Le matin, il est allé jouer dans une cabane en direction de la forêt. On sait qu'il a eu du mal à rentrer déjeuner, il avait envie de rester jouer dans la cabane. Donc il sort tout seul de chez ses grands-parents, ça c'est à peu près certain, puisque les deux témoins l'ont vu tout seul. Il descend naturellement la route, il arrive au lavoir, à la fontaine. D'ailleurs, les chiens Saint-Hubert des gendarmes, pour le coup, sont très précis pour ça, le suivent jusqu'à la fontaine, même si les chiens ils peuvent pas dire si ça s'est passé le matin ou l'après-midi. Ils le suivent vers la fontaine, et c'est possible que l'autre témoin l'ait vu après, dans un temps compatible.
Remonter derrière.
Remonter. Alors après, où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il reva dans la forêt pour la cabane ? C'est toujours ce qu'on a cru. D'ailleurs, tout le village a cru ça à chaud, puisque naturellement, tout le village est allé le chercher dans la forêt. Ou est-ce que tout simplement, il est remonté chez ses grands-parents ? Parce qu'après tout, si tout ça s'est passé en 10 minutes, il a pu aller vers la forêt. Mais si tout ça a pris 3 quarts d'heure, il a pu revenir chez ses grands-parents. Ce qui nous introduit, nous, spectateurs de l'enquête, sans en avoir, comme vous avez raison de le souligner, tous les tenants et les aboutissants. Évidemment, ça fait 9 mois qu'ils sont nés dans le guidon de cette enquête, les gendarmes. Mais ce qui veut dire qu'il est peut-être repassé par chez lui.
Ce laps de temps, il est au cœur de l'enquête, Randall Schwerdorfer ?
Il est fondamental. On l'a rappelé pour l'affaire Dils, c'était aussi fondamental. Vous avez dit, Julie, tout à l'heure, on ne vient pas par hasard dans ce hameau. Si, c'est possible, ça peut arriver. Dans l'affaire Dils, je rappelle quand même que le meurtrier Francis Holm était là complètement par hasard, dans un endroit totalement improbable. Personne ne s'imaginait qu'il était là, et pourtant il y était. Un détraqué qui traîne, qui cherche, fournirait, était parfois dans des endroits très improbables sans que personne ne le sache. Non, vous avez raison, Julie, ce laps de temps est très important. Pourquoi 16h30, premier témoignage, il serait vers le lavoir. 16h45, il remonte en direction de chez ses grands-parents, ce qui veut dire déjà qu'il a échappé à la surveillance de ses grands-parents. Quand ils disent que le gamin a disparu, qu'ils n'y peuvent rien, écoutez, manifestement, c'est vrai. En tout cas, selon ses témoins, oui, ils ont bien vu un petit garçon errer, parce qu'on peut seul. Appeler ça que comme ça, à 2 ans et demi, seul, sur la voie publique, même si c'est une impasse, c'est quand même la voie publique. Et deuxièmement, il y a deux options. Il y a la maison des grands-parents, à 17h, parce que ça nous rapproche vers 17h, après le temps d'y arriver, il est petit, où il y a la forêt. Et après, on sait que 18h12, on appelle les gendarmes. On se rend compte de la disparition d'Émile, pourquoi pas 17h, En tout cas, c'est cohérent par rapport au témoignage. On cherche, on ne va pas tout de suite appeler les gendarmes, c'est un enfant. Il peut être n'importe où, au garage, dans le grenier, il a pu se cacher où. On a même été chercher dans les décongélateurs, parce qu'on sait très bien que les gamins, ils vont n'importe où. C'est très rapide quand même. Au bout d'une heure, on appelle tout de suite les gendarmes parce qu'on est en panique. Voilà, est-ce que la reconstitution, enfin la mise en situation, c'est pas aussi pour écarter de façon plus radicale la piste familiale? C'est possible aussi, hein. Attention, on peut pas accuser n'importe qui, n'importe comment. Et surtout, on a vu ces derniers temps, on a eu un plateau par rapport à ça, sur la personnalité du grand-père qui a été ciblé. Attention, extrême prudence, on ne sait rien du tout.
Qui est, je le rappelle, placé sous statut de témoin assisté dans une enquête sur des violences et des agressions sexuelles présumées au début des années 90 dans un établissement scolaire
pour des violences
religieux. Mais c'est une affaire qui n'a aucun rapport avec le petit Émile, mais qui est intéressante, qui dit peut-être des choses sur sa personnalité.
Ses horaires, en tout cas, vont plutôt dans le sens de confirmer les déclarations qu'on a vues dans la presse des grands-parents du petit Émile.
Philippe Zdankiewicz, pardonnez-moi. Il faut s'imaginer quand même l'ambiance. On est dans un tout petit hameau, une vingtaine d'habitants. Il a plu aujourd'hui, il a neigé. Tout le monde se connaît. Il y a un climat de suspicion qui règne depuis 9 mois. Tout le monde connaît cette famille qui a perdu son petit enfant. Climat extrêmement pesant.
Certainement, au niveau de la commune, oui, ça va être très pesant parce que bon, tout le monde doit se regarder, s'imaginer, extrapoler des choses. C'était en plein été. Maintenant, l'hiver est passé, on est au printemps. La configuration a changé également au niveau de la lumière, du temps, etc., du terrain même. Donc oui, c'est assez complexe. On en est à un point où on recherche finalement la chronologie des faits. Et finalement, pour résumer, on met en image ce que l'on a décrit par rapport aux auditions et autres. Les gendarmes ont le script, maintenant ils mettent en scène pour justement bien cibler et voir exactement quel a été les déplacements, les façons de faire, qui faisait quoi, à quel moment, qui a vu quoi. On en est quand même à des précisions d'horaire, parce que comme vous disiez, monsieur Rizet, que bon, oui, on en est à 16h30, 16h45, 17h15, bon, 18h12, il y a l'intervention des gendarmes, mais entre 17h15 et 18h12, bon, qui a cherché? Qui a fait quoi? C'est surtout ça qui était important de savoir dans cette période de temps, justement.
Et alors, comment ont-ils procédé? Vous nous parliez tout à l'heure de drones qui ont tout filmé, en fait, aujourd'hui. Et ce sont ces vidéos-là qu'on va ensuite analyser pour en savoir plus. Comment ça se passe?
Ils filment tout le monde. Le drone a dû filmer tout le monde. Et puis, c'est vrai que dans les enquêtes criminelles, les gendarmes ont souvent, quand vous êtes entendu en garde à vue par deux enquêteurs qui sont à vous poser des questions, c'est filmé et retransmis dans une pièce à côté où des spécialistes du comportement ont un peu de recul, hein, même si ça se passe en direct. Et puis à la fin, pendant les pauses, les deux enquêteurs qui questionnent en face à face ont une discussion avec ceux qui vous observent à la télé. Et vous observez à la télé, ça donne des choses. Dans l'affaire de Michel Pial, là, qui pendant 3 mois avait tenu en haleine parce qu'il avait tué son épouse, avait pris son téléphone et avait fait croire qu'elle envoyait des photos depuis la dune du Pilat, souvenez-vous, Julie. Et il a avoué au bout de 48 heures de garde à vue parce que les profileurs de la gendarmerie, dans la pièce d'à côté, au bout du bout de la garde à vue, avaient décelé, alors qu'il niait tout pendant 48 heures, avaient décelé à la caméra des choses qui ont permis finalement de le faire craquer.
Sauf que là, en réalité, le but, c'est pas de les entendre parler,
alors
de
là,
les interroger,
c'est un peu différent,
on les filme
mais
juste.
Là, ça veut dire avoir la trace des 17, si tant est que dans les 17, il y a quelqu'un qui sache quelque chose qui ne dit pas. Dominique disait tout à l'heure, quelqu'un qui peut mentir par omission. Mais si dans les 17, c'est quand même un vase clos, hein, tout ça, c'est un huis clos judiciaire aujourd'hui. Si dans les 17, quelqu'un sait quelque chose, a forcément été dans l'embarras plusieurs fois dans les 10 heures d'aujourd'hui, et ça peut-être qu'en regardant les comportements, le film à froid, peut-être que ça ressortira.
C'était... Vous avez une question, Pablo?
Oui, j'ai une question. Mais l'objectif de cette mise en situation, c'est de chercher les contradictions dans ce qu'ont pu dire dans les différents témoignages, ou c'est de déceler les mensonges éventuels, ce qui pourrait indiquer...
Les deux.
C'est pas tout à fait la même chose. Parce que le mensonge, on peut dire qu'il peut y avoir, je sais pas, on va le voir marcher, on va dire un comportementaliste va pouvoir dire à lui, il marche un peu
les
bizarrement, de lingua, etc.
Hein, qui dit incohérence dit aussi mensonge, mais il y a surtout.
Non, mais attendez, il y a 9 mois, c'est un peu compliqué. Moi, je sais pas ce que je faisais il y a 9 mois. La mémoire joue aussi des tours. Je sais pas comment ils ont fait pour Chevaline 9 ans après. Mais savoir à la minute près ce que vous faisiez. Moi, si on me demande si j'ai croisé Randall tout à l'heure, avant ou après la porte d'entrée, je sais même plus.
C'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué ce qu'on leur demande.
Oui, c'est très compliqué.
9 mois plus tard.
Surtout ultra filmé.
Regardez dans la cour d'assises, moi qui plaide régulièrement devant la cour d'assises, quand vous avez un procès en première instance, on s'en souvient encore, mais si c'est en appel, vous imaginez les témoins, on leur refait répéter des choses, ils peuvent dire des choses qui sont un peu différentes parce qu'ils ont oublié, alors on leur relit leur déclaration, c'est toujours très compliqué. Oui. C'est tout le problème de la valeur des témoignages. Alors c'est vrai que là, c'est un peu récent quand même, donc il y a plus de chances effectivement d'avoir des éléments concrets et qui vont faire avancer l'enquête, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est les deux. L'objectif, c'est une fois de plus de trouver la vérité, d'arriver à savoir ce qu'il s'est passé et de retrouver ce pauvre petit enfant qu'on espère retrouver un jour. On reste toujours dans l'espoir, on discutait tout à l'heure. On espère qu'il sera retrouvé grâce justement au professionnalisme effectivement de tous les intervenants, des juges d'instruction. Par contre, je dirais peut-être un truc, c'est mon franc-parler habituel, on le sait, il y a un truc que je trouve dommageable, c'est pourquoi il n'y a pas une alerte à l'enlèvement tout de suite. Je sais que le critère, c'est effectivement qu'on soit certain que l'enfant ait disparu et qu'il soit enlevé. Mais je pense qu'un enfant si jeune qui disparaît, je pense qu'il faudrait peut-être réformer la loi de 2006 ou faire une application plus souple de la loi de 2006 qui a créé cette alerte enlèvement pour qu'on puisse tout de suite le mettre en œuvre.
Parce pourquoi que là, rappelez-moi, il n'y en a pas eu.
Non, après,
il n'y a pas eu d'alerte.
En fait, appel à témoin le lendemain des faits. Le 9, en fait, le 8, il disparaît. Le 9, le procureur déclenche l'alerte à témoin. Mais l'alerte à témoin, c'est dans le coin. Alors que le déclenchement, si vous voulez, immédiat, effectivement, dont je parlais tout à l'heure, c'est un déclenchement national. C'est un déclenchement extrêmement efficace. Et on sait que ça a prouvé son efficacité.
Et alors, rappelez-moi, pardonnez-moi, pourquoi ça n'a pas été déclenché? Qu'est-ce qui manquait comme critère?
Parce qu'il faut un critère. Le critère, c'est être certain qu'il est disparu et que ce ne soit pas un accident. Or, le procureur, au départ, pensait que c'était un accident parce qu'on est dans la montagne, il aurait pu tomber, il aurait pu se faire mal, etc. Donc, effectivement, au départ, il a pensé ça et l'application de la loi a été appliquée. Bien sûr, je ne vais pas critiquer cela, mais je pense qu'elle devrait être appliquée de façon plus souple. Il faudrait une réforme ou une jurisprudence qui permette une souplesse parce que, si vous voulez, c'est dramatique. S'il y a eu ce déclenchement, cette alerte, eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, on l'aurait retrouvé. Mais en plus, c'est très lourd parce que le procureur, c'est lui qui le déclenche. Mais avant, il doit demander l'autorisation au ministère de la Justice. Donc, ouais, c'est tout un, voilà, c'est pas simple. Et il faut savoir qu'en France, actuellement, toutes les 10 minutes, on a une alerte enlèvement. Eh bien, le petit n'en a pas bénéficié. C'est tout ce que j'ai à dire.
Sylvie Novakovic a tout à fait raison. Sur cette
il aurait fallu plus de souplesse là-dessus.
Évidemment, parce que vous imaginez bien, sur tous les moyens qu'on a aujourd'hui, notamment les autoroutes sont quadrillées immédiatement, les accès routiers, il y a des gros moyens qui sont déployés, hélicoptères aussi en soutien de gendarmerie. Si vous avez un enlèvement à la fourniret, on peut réagir très très vite. Hein. On peut arrêter n'importe qui, n'importe où, sur un périmètre qui est le territoire national, hein, en réalité, donc on peut agir très très vite. Là, c'est très efficace, hein, et Maître Novakovic a raison. Là, comme il n'y a eu aucune démarche particulière, et vous imaginez bien qu'en 2 heures, 3 heures, 5 heures, c'est des centaines de kilomètres.
Mais pourquoi est-ce qu'on est parti du principe que c'était potentiellement
un accident? C'est subjectif, en fait, l'appréciation subjective du procureur, c'est lui qui se dit, tiens, c'est bizarre. Ou tiens, non, j'ai pas les éléments, j'y vais pas, parce que ça mobilise quand même beaucoup de monde, l'alerte enlèvement, ça coûte de l'argent.
C'est une grosse responsabilité.
C'est une grosse responsabilité, on a toujours peur de se faire taper sur les doigts si on le retrouve le lendemain.
Une certaine frilosité aussi, des fois.
Oui, voilà. Oui, et puis c'est aussi une intuition, parce que la loi laisse en fait le soin au procureur d'apprécier la situation.
C'est ça.
Il est tout seul, et c'est lui qui décide à un moment s'il fait ou s'il fait pas.
C'est le directeur de la police judiciaire.
Exactement.
Voilà, donc déjà en premier lieu, le procureur est saisi parce qu'il y a des recherches à mettre en place. Le temps est important. C'est ce que je dis toujours. Le temps, c'est l'ennemi de l'enquêteur. Donc, dans les disparitions, qu'est-ce qui est important? Ce sont les premières heures. Donc, il ne faut pas hésiter, comme on dit, à taper, même fort, même si il m'est arrivé de prendre des décisions. Et en 10 minutes, c'était résolu. Mais on avait quand même lancé une alerte importante de renforcement de patrouille et autres. C'est pas grave. L'important, c'est de retrouver. Et le temps, il est là. Il faut, dès le départ, on ne dit pas à la personne, qui vient dire une disparition, revenez dans deux jours. Quel est le texte qui dit ça? On ne dit pas non plus, il est parti, il va revenir. Non, c'est tout de suite. On a, donc la disparition, encore plus d'un enfant mineur, c'est une disparition qui est obligatoirement inquiétante. On ne peut pas traiter autre chose. Donc c'est là qu'il faut prendre les mesures.
Surtout deux heures et demie.
Oui, bah là, prendre des mesures très importantes. Il ne faut pas hésiter, comme on dit, à taper à tout niveau.
Surtout que ça fait 9 mois et qu'il n'y a pas de corps. Et que voilà. C'est pas bon signe on pas si corps, on part sur une affaire criminelle.
Et on n'a pas de corps de délit, pas d'aveu, rien. Donc là, on est donc
dans
on peut pas.
Ça ressemble. Dans quel sens c'est pas bon signe.
Bah, c'est très mauvais signe pour déterminer un auteur potentiel d'un acte criminel. Hein. On n'est pas loin de l'affaire Grégory, sauf que l'avantage de l'affaire Grégory, c'est qu'il y avait un corps, mais ça n'a rien donné. Hein. Et là, on a
mais
même
plus
pas...
le temps passe, moins il y a de chances de retrouver l'auteur.
Moins il y a le temps.
Il y a des précédents où on a condamné des auteurs de meurtre alors qu'on n'avait pas retrouvé de corps.
Mais bien sûr, je le sais, on avait l'affaire Zepeda qui était comme celle-là. On en a parlé sur les plateaux, mais là, on est très loin de l'affaire Zepeda. Et au bout de 9 mois, si on a interpellé personne, c'est que honnêtement, on doit être dans le vide. Hein.
Dominique Rizet.
Moi, je vais reparler rapidement de l'affaire de l'alerte enlèvement. En fait, aux États-Unis, elle s'appelait Amber Alert, parce qu'une petite fille qui s'appelait Amber avait disparu. Et les Américains, qui avaient fait ensuite, s'étaient penchés sur cette histoire, s'étaient aperçus qu'en fait, il y avait tout un tas d'éléments. On connaissait la voiture, on connaissait à peu près l'auteur, on avait un numéro de plaque d'immatriculation, qui aurait permis, si le plus grand nombre avait été au courant de l'enlèvement de la petite Amber, assez vite de dire, voilà, je l'ai croisé sur telle route. Et les Américains ont fait des statistiques horribles avant de lancer cette Amber Alert, de l'imaginer, de la concevoir. C'est, je crois, sur une soixantaine d'enfants enlevés, les enfants qui avaient été tués, c'est-à-dire la quasi-totalité des enfants enlevés, étaient tués dans les 6 heures. C'est-à-dire que quelqu'un qui enlève un enfant pour faire ce qu'on imagine malheureusement, eh bien, va pas perdre de temps. Parce qu'il veut pas se faire Nordal-Lelandais. Donc ça allait très vite, donc il fallait aller vite, donc il fallait déclencher l'alerte rapidement avec des éléments. Voilà, il faut avoir des éléments. Hein. C'est pas quelqu'un qui disparaît à tel endroit. On a un élément sur une voiture qui a pu l'enlever, numéro de plaque. Souvent dans des couples séparés, c'est le père qui vient enlever l'enfant. Ça arrive à la sortie de l'école. Ben on lance une alerte enlèvement. Et c'est vrai que ça aurait été bien.
Alors, on va revenir, on va en reparler juste derrière, mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne donc sur ce qui s'est passé aujourd'hui, cette mise en situation. Lisa Adef, vous avez répertorié les lieux clés de cette mise en situation qui a eu lieu aujourd'hui au Auvernais.
Oui, d'abord, on va parler justement du Auvernais. C'est un village à 1300 mètres d'altitude qui se différencie du Bas-Vernais. À l'année, il n'y a qu'un peu plus de 100 habitants sur la totalité des deux villages qui composent la commune du Vernais. 23 km² entourés de presque 700 hectares de bois et de forêts et traversés par une rivière. Donc c'est ici, dans ce paysage verdoyant, qu'Émile a disparu le 8 juillet dernier. Mais c'est donc aussi ici, dans cet environnement complexe et truffé de lieux clés, que la mise en situation se tenait aujourd'hui. Le premier lieu important, c'est la maison des grands-parents d'Émile. Certains des habitants disent avoir vu ou entendu le petit Émile à l'intérieur ou juste à côté de cette maison. Le 8 juillet dernier, dans cette maison, Émile se réveille d'une longue sieste un peu avant 17h. Il aurait échappé à la vigilance de sa famille. Selon deux témoins, Émile aurait emprunté cette route pentue à l'entrée du hameau, habillé avec un t-shirt jaune et un short blanc. Émile était tout seul. La mise en situation va permettre d'éclaircir cette piste, d'autant plus que ces deux témoins n'étaient pas ensemble et ils ne sont pas d'accord sur l'horaire, 17h ou 17h15. Où est allé Émile en empruntant cette route? Deux autres témoins disent avoir vu Émile près du lavoir vers 16h30, dans la partie basse du hameau, donc pas à l'entrée du hameau, contrairement au témoignage précédent. Peut-être qu'Émile est allé aux deux endroits. La mise en situation va aussi permettre de déterminer cet élément. Autre lieu clé, la gendarmerie. À 18h12, les grands-parents d'Émile y signalent la disparition du petit garçon. Les grands-parents ont participé, bien sûr, à cette mise en situation en présence de leur avocat, puisque je rappelle que c'est dans leur maison, à eux, qu'Émile était en vacances au moment où il a disparu. Donc, leur contribution à la mise en situation était évidemment indispensable. Les 17 personnes convoquées pour cette mise en situation jouent un rôle important. Leurs témoignages vont être recoupés, leurs attitudes scrutées, et ça va permettre de conforter ou d'éliminer des hypothèses. L'accès au hameau du Vernec, vous voyez, d'éliminer ici par les pointillés, est interdit jusqu'à 8h demain matin. Il y a des dizaines de gendarmes, il y a aussi un drone mobilisé sur la zone. Et vous le voyez, plusieurs hypothèses que vous voyez avec les tracés en rouge sont envisageables. Toutes ces forces sont réunies avec évidemment un seul objectif, celui de retrouver Émile ou au moins l'une de ses traces.
Merci beaucoup Elisa. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont filmé toute la journée voilà, ces différentes scènes. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Vous parliez du logiciel Anacrim tout à l'heure. C'est quoi?
Ils vont décortiquer. Les gendarmes vont décortiquer tout ce qu'ils vont rapporter comme éléments. Comparer ces éléments, par exemple, à des PV d'audition, à des constatations sur place, le jour ou dans les jours qui ont suivi la disparition d'Emile. Eux vont travailler avec leur instinct, leur mémoire, leur connaissance de gendarmes, de police judiciaire, d'enquêteurs. Les juges vont travailler avec leur connaissance de juges d'instruction. Et puis, le logiciel Anacrim, qui est un logiciel qui, dans lequel on entre toutes les données, tous les PV d'audition, les horaires, les témoignages, va chercher, mélanger tout ça, brasser toutes ces informations et sortir un élément, quelque chose, une incohérence ici, une autre là, un élément qui démontrera que telle personne à telle heure ne peut pas être à cet endroit-là et dire qu'elle a vu ça, parce qu'en fait, on a d'autres choses qui permettent, son téléphone, le témoignage de quelqu'un d'autre, qui permettent de dire que cette personne n'était pas là. Et ensuite, eh bien, ils vont revenir pour poser des questions à ces personnes. Est-ce que vous êtes bien sûr que vous avez... Alors, la personne va peut-être dire, bah non, effectivement, comme disait Pablo tout à l'heure, est-ce que Pablo a croisé Randall avant ou après l'entrée de BFM? Non, mais c'est important, hein,
ouais,
parce que ça peut faire de quelqu'un un suspect qu'ensuite, voilà, on va tordre pour essayer de le faire parler.
Et son Pablo, il est toujours suspect.
Oui, oui, bien sûr. Et vous aussi?
Oui, bien sûr. Encore pire.
Mais donc, ce logiciel Anacrim, il brasse un tas d'éléments.
Exactement. Alors, je reprends l'expression du général Daoust qu'on reçoit souvent ici, qui était patron d'IRCGN, qui parle de la frise. La frise, c'est et le temps, et les éléments, et les auditions. On tourne ça un peu comme une frise ADN, et puis quelque chose va peut-être en sortir ou pas.
Dans l'affaire Grégory, en 2017, donc c'est en 84, donc presque 30 ans après, c'est le logiciel qui fait tilter sur quelque chose. C'est qu'il dit, alors que ça n'avait pas jusque-là attiré l'attention, il dit, mais c'est marrant, il y a un couple qui a l'air de faire des repérages. C'est le logiciel qui permet de dire, c'était un procès verbal de gens qui avaient vu un couple avec des jumelles deux jours avant, à un endroit. En soi, ça n'avait aucune espèce d'importance. Mais en réalité, le logiciel a permis de montrer qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas jugés importants, qui n'étaient pas jugés du tout utiles, et qui en réalité montraient qu'il y avait un couple qui avait été signalé à plusieurs reprises autour de la maison et qui semble avoir donc fait des repérages.
Alors que personne n'y prêtait attention jusque-là.
Personne n'y prêtait attention, pourtant tous ces procès-verbaux existaient, et c'est ce qui les a mis sur la piste, non pas d'un meurtrier seul, c'est l'hypothèse des gendarmes de 2017, mais sur l'hypothèse d'un meurtre collectif, d'une équipe. C'est ce qui leur a fait penser qu'il y avait une voiture qui avait fait des repérages pour voir si dans les jours précédents, le petit Grégory était tout seul devant sa maison. Donc en fait, c'est des micros, parce qu'un dossier d'instruction, comme dit Dominique, c'est des milliers de pages, des milliers de données, partout, éparses. De téléphones, de voitures, de témoignages. Et en réalité, le logiciel, ça permet... Ils font... Alors, c'est, des fois, on n'y comprend rien quand on regarde ça, nous, avec nos yeux de non-gendarmes. Mais ça fait des cartes, ça fait des petits points sur les cartes, ça situe tous les témoins, tout ça. Et au bout du bout, ben, ça donne un œil un peu neuf. C'est ça dont ils ont besoin aujourd'hui, après 9 mois. Hein. Ça donne un œil un peu neuf sur des données...
Dont ils disposent. Il existe depuis quand, ce logiciel, à peu près?
Quelques années. Là, on parle de plus en plus d'Anacrim.
Vous avez des questions aussi compliquées.
Oui, parce que ça me passionne, Dominique. Non, mais c'est vrai qu'on se dit, à notre époque, avec tous les moyens dont on dispose, dont ce logiciel qui permet donc de voir des choses que les enquêteurs jusque-là n'avaient pas vues, comment est-il possible qu'il puisse encore y avoir des disparitions de ce type?
C'est vraiment moche. Et je vais vous dire, c'est pour ça que je rejoins mon confrère totalement là-dessus aussi, parce que, en fait, c'est tout de suite qu'on doit repérer, effectivement, qu'on doit découvrir. Si quelqu'un disparaît, faut agir tout de suite. Et d'ailleurs, je fais partie des avocats qui ont défendu, effectivement, la loi concernant la disparition des adultes, parce que c'est aussi un débat qu'on peut pas faire aujourd'hui, mais avant, un adulte avait le droit de disparaître, et sous ce prétexte, on ne pouvait pas déposer plainte suite à une disparition. Et c'est comme ça qu'on ne retrouvait plus les adultes, parce que c'était trop tard. Aujourd'hui, heureusement, il y a une loi qui est intervenue et on peut déposer plainte pour, effectivement, pour séquestration et tentative d'enlèvement pour une personne qui disparaît. C'est possible aujourd'hui parce qu'on a justement vu en jurisprudence, on a vu dans les dossiers qu'il faut réagir tout de suite.
Il y a énormément de disparitions.
Exactement.
Il suffit d'entrer dans une gendarmerie, n'importe laquelle. Hein.
Exactement.
Vous allez voir les placards de visages d'enfants qui ont disparu depuis des années, qui ont vieilli après par la suite pour essayer d'identifier, c'est terrifiant.
C'est terrifiant.
Donc,
terrifiant.
Oui, parce que moi, je sais, sur mon téléphone, je reçois tous les jours une quantité invraisemblable.
Je rappelle que vous êtes ancien gendarme.
Oui, d'avis de disparition. Et il est vrai que je me souviens très bien, quand je partais en OPEX, on est parti avec toutes des photos de jeunes filles qui avaient disparu, des enfants qui avaient disparu, pensant qu'ils pouvaient être partis dans les pays de l'Est ou autre. On partait avec cette petite brochure. Et oui, c'est incroyable. Encore plus maintenant, les disparitions actuellement, c'est fou. Ça n'arrête pas.
C'est près de 200 par an, je crois, en France.
Oui, un jour sur deux, à peu près.
C'est très impressionnant.
Pour l'association de la RPD,
oui, de façon criminelle.
Que Bernard Valézy en est président, on a 650 adhérents bénévoles. Et on a plus de 500 dossiers actuellement.
Fait cette association, donc des bénévoles qui recherchent des personnes disparues?
Ce sont des bénévoles, oui. Ce sont des gens de tout milieu professionnel qui reçoivent une formation et qui après vont partir en enquête, en binôme.
Genre détective privé.
Pas détective privé, parce que ce sont des bénévoles. C'est plutôt... Moi, je pars du principe que ce sont des aventures.
Oui. Voilà. Oui, mais vous participez, vous allez chercher ces personnes disparues dans le cadre d'enquêtes ou vous y allez, seul, en petit groupe
Non, c'est une... on reçoit une enquête, on reçoit la famille. La RPD ne racole pas les familles. Bon, on fait une petite parenthèse, mais les familles viennent vers nous, vers la RPD, pour demander de l'aide, des conseils aussi, de signaler la disparition d'un être cher qu'on va rechercher.
Il faut dire aussi que la justice, au bout d'un certain temps, vous oublie. Et quand, au bout d'un an, deux ans, trois ans, on ne trouve pas. Toutes les affaires ne sont pas médiatiques comme celle du petit Grégory. Moi, j'en ai des affaires où ça fait deux ans, trois ans qu'on ne trouve pas le meurtrier, on laisse tomber.
C'est la raison pour laquelle on
ne
faut pas être tombé dans l'oubli.
Arriver à saisir Nanterre n'est pas si simple que ça, j'ai le cas actuellement.
Absolument.
Et je peux vous dire que moi, j'ai eu un meurtre abominable, ça fait trois ans, il n'y a rien.
Et puis, il n'y aura jamais rien.
Je sens que les juges.
Le meurtre d'un enfant, pardon?
Non, d'un homme, mais dans des conditions effroyables. Et je sens que les juges d'instruction ont complètement laissé tomber le dossier. Et j'ai des parents désespérés. Et puis, on a des gens monstrueux qui ont commis un acte absolument monstrueux, qui sont en pleine nature.
Oui. Mais est-ce que vous diriez, en tant qu'avocat, que, au bout d'un moment, il faut aussi savoir tourner la page alors que justice n'a pas été rendue?
Tourner la page.
Vous vous rendez compte, quand vous êtes parent, j'ai en mémoire la disparition de deux jeunes enfants en Guadeloupe. Je vais souvent en Guadeloupe, j'adore la Guadeloupe, mais il y a deux jeunes gamins, 6 ans et 7 ans, je crois, le frère et les deux frères, qui ont disparu sur une plage de Guadeloupe. Ils étaient en vacances avec leurs parents. Les parents étaient au restaurant, ils sont venus, il n'y avait plus d'enfants.
Quel âge?
Et 6 ans et 7 ans. Et ils reviennent en France, en métropole, sans les enfants. Ça s'est passé il y a 15 ans.
Enfin, on n'a jamais su ce qui s'est passé.
Rien. Jamais.
En l'occurrence,
ce qui est aussi important, c'est d'être près de la famille et de leur faire conserver l'espoir.
Bien sûr.
Ça, c'est important. On ne peut pas oublier. C'est pas possible. Et on ne doit pas, d'abord.
C'est nous pour permettre
de dire on oublie. Non, il faut. Il n'y a jamais de porte fermée. C'est comme dans les enquêtes, on ne ferme jamais les portes. Donc, on continue toujours et il faut absolument ne pas oublier.
Alors qu'il est sur cette affaire-là, l'affaire précise du petit Émile, il y a 20 enquêteurs qui travaillent à temps plein pour essayer de le retrouver. Absolument. Mais est-ce qu'au fil du temps, malheureusement, il y a des enquêteurs qu'on retirera et on mettra un dispositif moins important?
Certainement, puisqu'une fois de plus, on a trop attendu. Là, on est à 9 mois. Donc oui, il y a un risque qu'après, ils abandonnent si jamais ils n'ont pas suffisamment de pistes. J'espère que non, évidemment.
Regardez l'affaire Noyer.
Exactement. Et d'ailleurs, on peut quand même féliciter, effectivement, cette nouvelle structure des Colquais, à Nanterre. Madame Kéris, qui s'en occupe remarquablement bien. C'est formidable parce qu'on arrive à résoudre des dossiers, mais le problème, c'est qu'ils sont débordés. Ils ne sont pas assez. Donc, mon confrère a un dossier qu'il a présenté. Moi-même aussi, j'attends toujours une réponse. Alors que ce sont disparus de Concarneau, c'est des gens quand même où il y a des indices réels de disparition d'origine meurtrière et il ne se passe rien. Pourquoi ? parce qu'ils sont débordés. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler ce domaine. On sait que la justice n'a pas beaucoup de moyens, mais il faudrait effectivement augmenter le nombre de juges dans cette cellule, parce que les cold cases, ça permet à toutes ces familles, justement, de faire, de reprendre espoir. Reprendre, de trouver au moins, parce que pour faire le deuil, il faut le savoir. Et nous sommes tous les deux pénalistes, on en sait quelque chose. Pour faire un deuil, une famille a besoin, effectivement, de savoir qui est l'auteur du meurtre. Parce qu'ils savent, au bout d'un moment, qu'ils ne retrouveront jamais, effectivement, malheureusement, la victime. Mais au moins, ils veulent savoir qui est l'auteur. Ils ne pourront pas faire leur deuil si on reste sur une inconnue. Et pour le petit Émile, ce sera pareil pour la famille, si on n'arrive pas à trouver. On espère qu'on va retrouver Émile, mais si on ne le retrouve pas, il faudra au moins trouver le meurtre.
Mais nous demander une justice qui soit 100% efficiente, ce qui est quand même complexe, théoriquement parlant.
Il y a toujours le risque du serial en plus. C'est-à-dire, vous prenez un Fourniret, toutes les disparitions liées à Fourniret étaient des disparitions. Comme l'affaire du petit Émile, jeune fille qui rentre de l'école, qui disparaît, 8 ans, 12 ans, 13 ans. Derrière, il y a un serial violeur, serial killer, et moins vous résolvez l'affaire, plus il continue. Hein. Les disparus de Mourmelon, ça a été pareil. Les disparitions cachent toujours quelque chose. Soit c'est familial, soit c'est autre chose. C'est...
Il n'y a pas de statistiques de ça, je dis. Il y a un trou dans la raquette entre la police et la gendarmerie qui communiquent très mal entre elles sur ces deux sujets. Il y a, on ne sait pas combien de personnes. Il y a un millier de personnes de disparition inquiétantes par an. Des fugues, il y en a 45 000. Il y en a une toutes les 12 minutes. Mais en général, les fugues, ils sont retrouvés dans les 3 jours. Il y a 1 000 personnes, dont 200 vraisemblablement, qui font l'objet d'homicides, pour lesquels il y a donc, par définition, pas de corps, pas de scène de crime, et donc quasiment pas d'enquête. Et donc ces familles, elles ont un double choc, qui est le choc de la disparition, c'est-à-dire c'est brutal, sans explication et sans rien. Et le deuxième choc, c'est toujours quand la police ou la gendarmerie leur dit, en général au bout d'un an, ben écoutez, on n'a rien.
Et on ne va pas se voiler la face, les policiers, les gendarmes parlent des dossiers qu'ils réussissent à résoudre, et jamais... De ceux qui ne réussissent pas.
Une dernière question, il faudra combien de temps, Dominique, il faudra combien de temps pour analyser ce que les enquêteurs ont récolté aujourd'hui ?
Ça va prendre des semaines ou des mois, oui.
Et derrière, ça peut déboucher sur une mise en examen.
Bien sûr.
Éventuellement.
Oui. Merci beaucoup.